Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible à partir de récits qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Avant de commencer, je veux justement prendre une seconde pour dire merci à tous ceux et celles qui nous écoutent régulièrement et qui acceptent de s'ouvrir à une autre façon de voir la Bible. Je sais que des fois, c'est un peu déstabilisant, mais je vous promets que c'est passionnant. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une partie de l'histoire biblique dont on parle peu. Saviez-vous qu'il y avait de la prostitution sacrée dans le monde de la Bible et qu'on pouvait même trouver de ces prostituées sacrées dans le temple de Jérusalem? Ça sera l'objet de notre émission. Mais avec ça, on parlera en même temps du début du monothéisme en Israël. Cette semaine, nous avons reçu quelques courriels, dont celui de Mme Fallu, que je partage avec vous. Bonjour, M. Daune. Je vous remercie très sincèrement pour le travail que vous essayez de faire à cette émission et auprès des jeunes du Collège Saint-Jean-Vianney. Une chose m'intrigue, moi et bien de mes amis. Vous dites que l'idée de présenter ces récits insolites vient des adolescents de votre collège. Est-ce qu'on a besoin de prendre des récits insolites de la Bible pour intéresser les jeunes à la lire, la prier et en vivre? Je pense que la Bible contient de très beaux passages qui pourraient bien aider les jeunes à grandir dans leur foi. N'est-ce pas la raison première de vos cours? S'il vous plaît, donnez à vos élèves et auditeurs la parole de Dieu pour nous inspirer à la prier, la méditer, pour qu'au moment des difficultés, ces passages soient un réconfort, qu'ils nous aident à devenir des témoins de l'amour de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions aussi être capables d'aider les autres. Les jeunes et vos auditeurs ont faim de vrais modèles de vie. Madame Fallu. Merci beaucoup, Madame Fallu, d'avoir pris le temps de m'écrire, surtout que j'en comprends que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec la démarche que je propose, alors je vais en profiter pour essayer de mieux l'expliquer. Premièrement, oui, je travaille au Collège Saint-Jean-Vianney, mais je ne suis pas professeur de religion. D'ailleurs, les cours au Québec sont maintenant des cours d'éthique et de culture religieuse, dans lesquels on aborde plusieurs religions, dont le christianisme, parmi d'autres. Moi, de mon côté, je suis animateur de pastoral. Je ne fonctionne donc pas avec des cours, des notes, des examens. Pour rejoindre les jeunes, il faut que je passe par leur intérêt pour leur parler de la Bible et de Dieu. Ils n'ont pas d'examen sur ça, ils ne sont pas obligés d'écouter ce que je leur dis. Donc, il faut que j'aille les chercher avec des choses qui vont aller les intéresser. Pour répondre directement à votre question, donc oui, il faut trouver une façon de susciter cet intérêt-là auprès des jeunes, puisque la façon traditionnelle de leur parler de la Bible semble peu leur intéresser. Pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas la Bible? Posons-nous donc la question. Peut-être qu'on n'a pas été assez habile pour voir comment la présenter en respectant leurs intérêts à eux. Les jeunes d'aujourd'hui, ben, moi, mon constat sur le terrain, c'est qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la Bible. Puis, s'ils en ont, c'est un préjugé négatif qu'ils ont vis-à-vis celle-ci. Mais n'ayez crainte, je leur parle aussi des récits plus traditionnels qui sont plus importants. La création, la sortie d'Égypte, la naissance de Jésus, aimer Dieu, ton prochain comme toi-même, des choses comme ça, la résurrection, etc. Mais c'est lorsque je leur parle des récits insolites qui sont complémentaires à tout ça, que ça, là, leur attention est captivée. Puis c'est à ce moment-là qu'ils veulent en savoir plus, qu'ils en redemandent. Alors, lorsque je leur parle, je veux surtout leur transmettre la passion et l'amour que j'ai personnellement pour la Bible. Puis souvent, c'est ça qu'on retient. On retient la relation qu'on a eue avec le professeur. On retient ce qu'il a essayé de nous transmettre plus que les notions. Souvent, les notions vont entrer par une oreille et sortir de l'autre. Par contre, on va se rappeler que, ah oui, mon prof d'histoire de secondaire 3, lui, il était passionné, puis il nous a passionnés avec ce qu'il nous racontait. Alors, les personnages bibliques que je présente dans les récits insolites, comme David, Noé, Lot et ses filles, ben, sont très humains. Oui, je le sais, ils ont fait des erreurs très graves même. Mais pourtant, on lit dans ces textes-là que l'amour de Dieu est plus grand que leurs bêtises. Dieu continue à faire alliance avec eux malgré leurs manquements. Puis je crois que parler de ces récits-là peut initier une discussion sur l'amour, sur le pardon de Dieu, puis en même temps réfléchir sur nos propres pulsions négatives qui sont présentes en nous. Je ne présente pas ces récits en disant « faites comme eux ». mais plutôt en disant « essayons d'apprendre de leurs histoires, de voir comment est-ce que leurs erreurs, on n'est pas obligé de les refaire aujourd'hui, puis peut-être qu'on peut apprendre de tout ça, et surtout de voir que Dieu peut être avec nous malgré nos faiblesses. » Mais suite à votre commentaire, je vais tenter de mettre un peu plus l'accent sur le côté spirituel des récits qui, bien qu'insolites, sont quand même dans la Bible et porteurs de Dieu. Alors, merci beaucoup, Madame Fallu, pour votre commentaire. Comme elle, je vous suggère de nous écrire. L'adresse, c'est simple, c'est auditoire@radiovm.com. Alors, j'attends vos commentaires et vos questions. Dans les premiers épisodes de cette série, on a vu des extraits du livre de la Genèse où les Cananéens entretenaient un rapport à la sexualité qui nous paraissait tout à fait scandaleux. On va maintenant comprendre pourquoi. Aux yeux des fidèles, ces pratiques sexuelles-là mettaient en péril la relation exclusive qu'il fallait développer avec Dieu, avec Yahvé. On va écouter un premier passage tiré du livre des Rois, chapitre 14, versets 21 à 24. Et à ce moment-là, on va commencer à voir cette prostitution sacrée-là. Alors, on écoute ce passage-là et on en reparle.
« Roboam, fils de Salomon, devint roi en Juda. Roboam avait 41 ans quand il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que le Seigneur avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. » Le nom de la mère de Roboam était Naama l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et par les péchés qu'il commit, provoqua sa jalousie plus que n'avait fait leur père. Comme ceux-ci, ils bâtirent à leur usage des hauts lieux, des stèles et des poteaux sacrés sur toutes les collines élevées et sous tout arbre verdoyant. Il y eut même des prostituées sacrées dans les pays. Ils agirent selon toutes les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël.
Dans le monde de l'Ancien Testament, la fréquentation des prostituées, ça ne constituait pas nécessairement un délit moral ou juridique. Par exemple, on a vu dans un épisode précédent l'histoire de Tamar, où Juda n'était pas blâmé pour avoir fréquenté Tamar comme une prostituée. Les relations sexuelles entre des hommes mariés ou non et des femmes célibataires sont tout à fait acceptables. Il faut se rappeler que cette société-là, ben, la polygamie était acceptée. Par contre, un rapport sexuel entre un homme avec une femme qui est mariée à un autre homme, ça, c'est qualifié d'adultère, et les deux personnes qui sont prises en flagrant délit doivent être sévèrement punies et même exécutées, selon certains passages de la Bible. Les prostituées, dont il est question dans ce récit, il s'agit des hommes et des femmes en passant, ce récit qu'on a entendu, bien, c'est des prostituées sacrées. C'est quoi ça, une prostituée sacrée? C'est quoi? Bien, dans le monde biblique, il faut se rappeler que Israël, il n'y a pas des murs autour d'Israël à cette époque-là. Le peuple cananéen vivait dans des villages à côté les uns des autres, alors c'est assez, la culture était assez perméable. On savait qu'est-ce qui se passait dans les autres villages, mais on s'en inspirait aussi. Les prostituées sacrées appartenaient au sanctuaire du dieu Baal. Qui est Baal? Le savez-vous? Baal, c'est un dieu pas mal intéressant. C'est le dieu cananéen de l'orage et de la pluie. Il est souvent invoqué quand c'est le temps des récoltes, puis on a besoin d'eau, on a besoin de, que la terre nourrisse, nous nourrisse nous-mêmes. On est dans un endroit où l'eau manque cruellement, puis on dépend de l'agriculture. Alors, on va invoquer Baal parce que c'est le dieu de l'eau, c'est lui qui rend le tout fertile. En s'installant en Canaan, les Hébreux commencent eux aussi à prier Baal pour avoir une moisson abondante. Ce n'est pas juste les Cananéens, les Hébreux aussi vont le faire. Et comme les voisins cananéens, les Hébreux vont se rendre au sanctuaire de Baal et vont rencontrer là des prostituées sacrées. La relation sexuelle qui va se passer là est vue comme une sorte de rituel pour assurer la productivité de la terre, la fécondité des élevages, puis même la fécondité, la fertilité des personnes dans une famille. Si on va avoir des enfants, bon, on peut commencer par aller voir une prostituée sacrée et s'assurer de la protection de Baal. Puis l'acte sexuel qui est là devient une sorte d'imitation de l'union entre deux divinités, Baal et Astarté, une autre divinité cananéenne. Certains récits de la Genèse condamnent sévèrement les mœurs sexuelles des ancêtres des Cananéens. On a parlé de Cam, de Canaan, les villes de Sodome et Gomorre, etc. Plusieurs autres passages de la Bible s'élèvent contre les prostituées sacrées. Le livre du Deutéronome précise que des hommes se prostituaient aussi. Puis, dans l'extrait qu'on va lire, ils sont traités de chiens. Alors, je lis ça, c'est de Deutéronome, chapitre 23, les versets 18 à 19. « Il n'y aura pas de courtisane sacrée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras jamais dans la maison du Seigneur ton Dieu, pour une offrande votive, le gain d'une prostituée ou le salaire d'un chien, car aussi bien l'un que l'autre, ils sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu. » Ça, c'est tiré du livre du Deutéronome. Un autre passage biblique du deuxième livre des Rois mentionne même la présence des prostituées dans le temple de Jérusalem à l'époque royale. Il faudra attendre le règne de Josias pour une véritable réforme du culte au temple. Alors, c'est justement ça, on lit des textes qui nous disent « ça n'a aucun sens, il faut enlever ça ». Mais en disant ça, ça implique qu'il y avait quelque chose là qu'il fallait enlever. On écoute ce texte-là qui est du deuxième livre des Rois, chapitre 12, versets 4 à 7.
Le roi ordonna au grand prêtre Hilkiyahu, au prêtre en second et au gardien du deuil, de faire sortir du temple du Seigneur tous les objets qu'on avait faits en l'honneur du Baal, d'Achéra et de toute l'armée des cieux. On les brûla hors de Jérusalem, dans les plantations du Cédron, et on emporta leurs cendres à Bethel. Il supprima la prêtraille que les rois de Juda avaient établie pour brûler de l'encens sur les hauts lieux des villes de Juda et des environs de Jérusalem. Il supprima aussi ceux qui brûlaient de l'encens en l'honneur du Baal, du soleil, de la lune, des constellations et de toute l'armée des cieux. Il transporta de la maison du Seigneur, hors de Jérusalem, au ravin du Cédron, le poteau sacré qu'on brûla dans le ravin du Cédron. Il le réduisit en cendres qu'il jeta à la fosse commune. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison du Seigneur et où les femmes tissaient des robes pour Achéra.
Les auteurs du livre des Rois mettent toujours l'accent sur les infidélités du peuple et de leur roi. C'est des infidélités qui, d'après les auteurs du livre des Rois, ont entraîné la destruction du pays et finalement l'exil à Babylone. Le passage qu'on vient de lire indique clairement que Baal et Achéra, deux divinités étrangères, avaient leur place au temple de Jérusalem, qui normalement, on croyait, aurait dû être dédié uniquement à Yahvé, le dieu d'Israël. Il y a des fouilles archéologiques qui nous ont permis d'appuyer tout ça. On a retrouvé une inscription provenant du royaume du Sud, donc autour de Jérusalem, datée de l'an 600 avant notre ère, où on trouve la mention « Yahvé et son Achéra ». Elle laisse entendre que la déesse Achéra avait non seulement sa place dans la religion populaire en Israël, mais qu'elle était présentée comme la femme de Yahvé. Imaginez-vous! Cette découverte archéologique et les passages bibliques qu'on vient de lire nous montrent que le peuple juif n'a pas toujours été monothéiste tel qu'il l'est aujourd'hui. On le voit, ils vont prier Baal, même qu'ils vont vers les prostituées sacrées au temple de Baal. Et plus encore, dans le dernier texte qu'on vient de lire, ces prostituées-là sont présentes au temple à Jérusalem même. On va aller un petit peu plus dans le détail dans quelques instants pour aller voir la naissance du monothéisme. Comment ça se fait qu'on est passé de plusieurs religions, plusieurs dieux plutôt, dont Baal, et qu'on a fini par dire non, tout ça, ça n'existe pas, on a un seul dieu et c'est Yahvé. Thank you. Vous êtes avec Sébastien Daune à l'écoute des récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de la prostituée sacrée. On a vu que cette prostitution ritualisée faisait partie du culte de Baal, c'est une divinité cananéenne, que les Hébreux évoquaient même au temple de Jérusalem, puis il y avait bonne raison de le faire, c'était lui qu'on invoquait dans la région lorsqu'on voulait avoir de bonnes récoltes. Tout ça, ça nous a amené à voir que la relation monothéiste des Juifs avec leur Dieu n'a pas toujours été comme celle qu'on voit aujourd'hui. D'un point de vue historique, il faut savoir que c'est par étapes qu'Israël a évolué vers une foi en un Dieu unique. La mention du culte à Asherah et à d'autres divinités païennes dans la Bible montre que les Hébreux étaient bel et bien polythéistes avant de devenir monothéistes. Ils invoquaient Yahvé, oui, le Dieu qui les avait libérés d'Égypte, mais aussi il y avait d'autres divinités de la région qui invoquaient au besoin. On a beaucoup parlé de Baal aujourd'hui, entre autres. Ces cultes aux divinités païennes sont condamnés, mais à plusieurs reprises dans la Bible, entre autres dans les livres des prophètes. Ces prophètes-là sont comme les défenseurs d'une relation exclusive avec Yahvé. Mais c'est un contre-courant. La religion populaire majoritaire n'était pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'ils continuent à marteler cette thèse-là qu'il y a juste Yahvé, les autres ne sont pas importants. Les prophètes représentent un courant religieux en rupture avec la tradition polythéiste. C'est progressivement que la foi du peuple va évoluer du polythéisme vers la première étape, on va appeler ça une monolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que oui, Yahvé, c'est le Dieu national d'Israël, et c'est lui qu'il faut prier sans nécessairement invoquer les autres dieux, mais ces autres dieux-là, des autres peuples, ils existent quand même. Mais on va juste ne pas les prier parce que nous, notre Dieu, c'est Yahvé. C'est seulement à partir de l'exil, quand ils vont se retrouver à Babylone, qu'ils vont tout repenser leur religion et qu'on va passer à un monothéisme réel où il y a juste un seul Dieu, Yahvé, qui existe et les autres dieux des autres peuples n'existent même pas. C'est à cette époque-là qu'Israël va relire ses expériences du passé, qui vont écrire une bonne partie de la Bible et qui va reconnaître toutes ses infidélités à l'égard de Dieu, de Yahvé, en disant « c'est vrai ». On s'est détourné de lui, on est allé prier d'autres dieux et c'est pour ça que tout ça nous est arrivé, c'est pour ça que maintenant on est en exil. Revenons à la prostitution. Le terme prostitution prend aussi une signification symbolique. Quand on est infidèle à l'Alliance dans la Bible, on va dire que le peuple se prostitue. Osée, le prophète, est le premier à exploiter ce thème pour dénoncer l'infidélité d'Israël. Sa vie personnelle devient elle-même un symbole de l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple. Sur l'ordre du Seigneur, si vous connaissez l'histoire, il épouse une prostituée lui-même et il va vivre toute la souffrance d'être trompé par cette prostituée qui va justement prendre un autre homme et plus tard va devoir la reconquérir. Et à quelque part, c'est comme Dieu et Israël. Dieu qui est toujours là, qui est toujours fidèle, puis Israël qui, oh, non, va se tourner vers d'autres dieux. Bon, après tout ça, prenons quelques instants de réflexion pour actualiser tout ça et de revenir dans notre monde à nous. Qu'est-ce que ça change à notre monde, toutes ces réflexions-là? Personnellement, moi, j'ai toujours été fasciné par les paroles et les actions de Jésus qui sont loin d'être critiques vis-à-vis la prostitution. Quand on lit les évangiles d'un bout à l'autre, on voit que dans les dialogues qu'il a avec les prostituées, qu'il les traite de façon très amicale, qu'il mange, qu'il parle avec elles. Puis même, il va aller jusqu'à les présenter comme dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous cite un court extrait, un verset, c'est Matthieu 21, chapitre 21, verset 31. « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Donc, pour l'évangéliste Matthieu qui nous transmet ça, Jésus dit que les prostituées précéderont les publicains, les pharisiens à qui s'adresse cette parole-là. Aux yeux de Jésus, ils vont passer avant les grands prêtres, avant les anciens du peuple, pas parce qu'ils sont plus parfaites, pas parce qu'ils sont saintes, non. Leur mérite, c'est de reconnaître qu'elles sont pécheresses. Elles le savent bien qu'elles ont besoin d'aide pour être pardonnées puis avancer vers Dieu. C'est une attitude complètement contraire de celle des autorités religieuses du temps de Jésus, qui était beaucoup plus, on pourrait dire, hypocrite. Puis la tradition chrétienne, avec les siècles qui ont suivi, n'a pas condamné complètement la prostitution non plus. Plusieurs pères de l'Église la considèrent comme un moindre mal. Saint Augustin, au IVe siècle, lui juge dans un livre qui s'appelle « De ordine » que la prostitution est naturelle et qu'elle permet de protéger les femmes honorables et les jeunes filles du désir des hommes. Au XIIIe siècle, il y a saint Thomas d'Aquin aussi qui écrit dans la Somme théologique supprimez les prostituées et vous apporterez un trouble général par le déchaînement des passions. Il permet aussi, saint Thomas, que l'Église conserve l'argent qui est donné par les prostituées. Bon, alors c'est deux petits détails. Hein. Aujourd'hui, le monde de la prostitution a pris de nombreux visages. Ça va de vidéos pornographiques sur Internet à des enfants victimes de tourisme sexuel dans les pays pauvres. Il y en a pour toutes les sauces. Mais presque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut trouver des solutions pour à tout le moins diminuer ou mieux encadrer cette prostitution-là. Les travailleurs du sexe sont souvent aux prises avec des problèmes de violence, de pauvreté, de santé et de drogue. Mais parfois, on préfère fermer les yeux, imaginer que ces problèmes-là peut-être n'existent pas. Puis pourtant, pour la personne qui voudrait suivre Jésus, il faudrait au moins pas ignorer ces prostituées-là, hommes et femmes. Peut-être même, on pourrait faire comme Jésus puis aller les rencontrer, avoir un rapport amical avec eux, les écouter au lieu de les juger, et voir si il y a quelque chose qu'on pourrait faire, peut-être collectivement comme société, pour les aider. Les rédacteurs de l'Ancien Testament ne semblent pas scandalisés par l'aspect sexuel de la prostitution. Dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, c'était pas la sexualité qui causait problème. C'est plutôt l'incidence de cette prostitution sacrée sur la relation exclusive avec le Seigneur qui pose problème. C'est pas la sexualité, c'est que ça nous détourne de Yahvé pour aller vers Baal. C'est ça le problème. À partir de ça, on peut s'interroger, nous. Au-delà de notre façon de vivre la sexualité, c'est quoi les pratiques qui nous détournent de Dieu? Même si la prostitution, ça fait pas partie de notre vie personnelle, qu'est-ce qui nous détourne du Seigneur? Ça peut être plein de choses, et je pense que c'est à chacun et chacune d'entre nous de trouver notre réponse personnelle pour peut-être revenir vers Dieu. C'est déjà le moment de se dire à la semaine prochaine. J'espère que je ne vous ai pas trop scandalisé en parlant de la présence de prostituées sacrées au Temple de Jérusalem. Pour aller plus loin, comme à l'habitude, je vous suggère un livre qui reprend les thèmes abordés. C'est « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, commentaires, questions, gênez-vous pas pour nous écrire. On prend un temps au début de chaque émission pour vous lire. Notre adresse, c'est auditoire@radiovm.com, mais vous pouvez aussi nous rejoindre par courrier régulier ou par téléphone aux adresses et numéros de la station Radio Ville-Marie. Lors de la prochaine émission, on va parler d'un dernier récit concernant David. Bon, on connaît tous le bon roi, mais il a commis un meurtre et un adultère. Vous le connaissez peut-être l'histoire, c'est la fameuse Bathsabée. Elle devait être assez belle pour entraîner le roi dans tout ça. Mais quelles seront les conséquences de son geste et surtout, comment est-ce qu'il va faire pour continuer à entrer en relation avec Dieu et être un roi modèle après tout ça? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. En terminant, merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. Merci à Andréane Laferrière pour ses lectures de la Bible et Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine.